Nous le savons, Jean-Baptiste et Jésus, que vous venez d'entendre, sont inséparables. Dans le texte que nous venons de lire, les voilà à nouveau réunis. On ne peut pas parler de Jean-Baptiste sans parler de Jésus, et de Jésus, bien sûr, sans parler de Jean-Baptiste. D'ailleurs, on ne pourrait pas raconter l'histoire de Jésus sans commencer par évoquer Jean-Baptiste. En effet, il faut d'abord que Jean-Baptiste advienne pour que Jésus paraisse. La question qu'on peut se poser est: Jésus n'aurait-il pas pu paraître seul, sans Jean-Baptiste? Pourquoi Jean-Baptiste est-il indispensable à la venue de Jésus? Qu'apporte-t-il de plus que Jésus ne dispose pas lui-même? Ce sont des questions éternelles, je vous rassure, dont les réponses ne seront jamais, bien sûr, définitives. Mais ce matin, je vous propose de nous interroger sur l'interaction qu'il y a eu entre Jésus et Jean-Baptiste pour mieux comprendre en quoi ces deux hommes sont différents et en quoi Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur. Pour reprendre l'annonce d'Ésaïe citée un peu plus tôt dans ce même évangile. Car pour Hérode, nous l'avons lu, il n'y a aucune différence entre Jésus et Jean-Baptiste. Jésus est simplement Jean-Baptiste relevé des morts. Jésus n'est donc qu'un N plus unième prophète. On peut dire, sans prendre trop de risques, que Jean-Baptiste et Jésus sont différents quand même, car justement, ils ont interagi l'un avec l'autre. À aucun moment dans l'histoire d'Israël, deux prophètes ont interagi l'un avec l'autre. À aucun moment, ils n'ont interagi de la sorte. Il y eut bien sûr des passages de témoins. On pense notamment à Élie et Élisée. Mais aucune interaction comme Jean-Baptiste a eu avec Jésus. La première interaction à laquelle on pense est bien sûr le baptême de Jésus par Jean. Jésus lui-même est venu au Jourdain pour se faire baptiser par Jean. Oui, c'est la première étape. Mais Jésus n'était pas le seul à se faire baptiser. Rappelez-vous, tous les habitants de Jérusalem et environ sont venus vers Jean pour se faire baptiser. Même si le baptême de Jean n'est pas un baptême de conversion, comme pour les autres, rien ne le distingue des autres baptisés dans sa mise en œuvre. Le baptême à lui seul ne prépare donc pas le chemin du Seigneur, car ce chemin, bien sûr, est unique, car le Seigneur est unique. En fait, dans l'évangile de Matthieu, Jésus interagit trois autres fois avec Jean-Baptiste. La deuxième fois, bien sûr, la première étant le baptême, c'est lorsque Jean-Baptiste est mis en prison par Hérode. La troisième fois, c'est lorsque Jean envoie ses disciples demander à Jésus s'il est bien celui qui doit venir. Et enfin, la quatrième fois, c'est notre texte, quand Jean-Baptiste est décapité par Hérode. Parmi ces trois autres interactions, autres que le baptême, par deux fois, la réaction de Jésus est de se retirer. À l'emprisonnement de Jean-Baptiste, Jésus se retire à Capernaum, qui est près de la mer. À la mort de Jean-Baptiste, Jésus se retire à nouveau, non dans une ville, mais dans un endroit désert, embarque par la mer. Verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. On remarque que plus Jean-Baptiste est entravé jusqu'à la mort, plus Jésus se retire, donc plus il disparaît. Et paradoxalement, plus les foules viennent à lui. Alors bien sûr, à la mort de Jean-Baptiste, Jésus ne va pas disparaître définitivement du texte. Nous sommes qu'au chapitre 14 de Matthieu, et il y en a 28. On n'est pas à la fin. Mais ce retrait temporaire de Jésus dans un endroit désert, par mer, à la mort de Jean-Baptiste, annonce sans aucun doute le retrait définitif de Jésus du monde dans un autre endroit inconnu, le ciel, par les airs. Je veux bien sûr parler de l'ascension de Jésus. À l'ascension, Jésus s'est aussi retiré du monde connu, cette fois définitivement. Et ce retrait a fait affluer les foules du monde entier, de tous les temps, comme les foules affluent aussi dans notre texte, dans le lieu désert où Jésus s'est retiré. Verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. La suite. Et les foules, l'ayant su, sortirent des villes et le suivirent à pied. En mettant ces deux retraits de Jésus sur le même plan, j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt d'aller voir comment les foules ont trouvé le chemin vers Jésus dans le texte. Car c'est ce chemin-là que nous empruntons à chaque fois que nous-mêmes suivons Jésus. Que dire donc du chemin qui mène à Jésus? On pourrait le dire simplement, ce chemin est le chemin de la sortie. Les foules sortent des villes. Les foules partent d'un espace connu vers un espace inconnu, désertique. C'est le chemin de la sortie, mais aussi celui de la rencontre. Celui de la rencontre avec Jésus, bien sûr. En fait, il y a une équivalence entre sortir de chez soi et aller à la rencontre. Si les foules sortent des villes, c'est qu'elles sont en désir de quelque chose qu'elles ne connaissaient pas. En désir de quelqu'un. Et ce quelqu'un, en voyant ces foules venir à lui, est ému aux entrailles et va guérir leurs malades. Verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit Jésus, une grande foule, et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. On peut remarquer que le terme grec pour malade n'est utilisé qu'à cet endroit dans l'évangile de Matthieu. C'est ce qu'on appelle un apax. Cela signifie qu'on ne sait pas vraiment ce que Jésus guérit. Pourtant, il y en a eu des malades dans l'évangile de Matthieu. On pourrait faire l'hypothèse que ce qu'il guérit est le mal de la relation d'amour. Et il guérit ce mal de la relation en se proposant lui-même à la relation, en étant ému aux entrailles. Mes chers frères et sœurs, ne doutons pas que l'amour, le vrai, guérit au-delà de toutes nos maladies physiques ou psychiques, même parfois les guérit. Dans ce mouvement vers la sortie, les foules sont en désir de la rencontre, car ces foules sont malades de la vraie rencontre qu'elles n'ont pas. Vous avez bien compris que les foules, en sortant des villes dans ce lieu désert, je le rappelle, vont en fait vers la vie que donne la relation d'amour que Jésus leur offre. La question qui se pose maintenant est, qu'est-ce qui fait sortir les foules des villes à la poursuite de Jésus? Qu'est-ce qui fait qu'elles sortent? Ce qui fait sortir les foules des villes, ce sont les oreilles. Les oreilles font sortir les foules des villes. Verset 13, écoutez de nouveau ce verset. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et les foules, l'ayant su, sortirent des villes et le suivirent à pied. Il y a dans ce verset un problème de traduction, car les deux verbes « entendre », donc « oreille » bien sûr, qu'il y a dans le texte grec, ont été traduits successivement par « à cette nouvelle », puis par « l'ayant su ». En fait, c'est le verbe « entendre » ou « écouter » au participe présent. Je rappelle qu'en grec, le grec ne distingue pas hein, l'entendre de l'écoute. C'est la même chose. Donc, Jésus entend l'annonce des disciples de Jean disant que Jean a été décapité. Jésus l'entend aussi. Jésus aussi a des oreilles. Quand Jésus entend ça, il se retire. Puis il y a un deuxième entendre des foules. Cette fois, quand elles sortent des villes pour aller vers Jésus. Mais qu'est-ce que les foules entendent? Le texte ne le dit pas. Certainement que Jésus s'est retiré de la circulation. Mais il ne faut pas exclure qu'elles ont entendu aussi que Jean-Baptiste a été décapité. Lui qu'elle considère comme un prophète. Verset 5. Il voulait le faire mourir, parlant de Hérode, car il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. En fait, les foules entendent la séquence décapitation de Jean-Baptiste, mise à l'écart de Jésus. Deux remarques à faire au sujet de l'entendre des foules. D'abord, il y a un entendre des foules car il y a une perte. Dans notre texte, c'est la double perte de Jean-Baptiste et celle de Jésus qui disparaît. La mise en marche des foules a lieu car il y a du moins. Les foules entendent le moins. La disparition de Jean-Baptiste, qui est le prophète, et Jean, et Jésus, pardon, aussi, qui se retire, c'est entendu. Ces deux disparitions aiguisent le désir des foules qui sortent des villes. La deuxième chose est que la mort de Jean-Baptiste renvoie les foules vers Jésus lui-même. Pour comprendre cela, il faut revenir à la raison pour laquelle Jean-Baptiste a été décapité. On pourrait le dire vulgairement, Jean-Baptiste a été décapité pour une question de fesses. Hérode a pris pour femme Hérodia, qui est la femme de son frère Philippe. Verset 3. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodia, femme de Philippe son frère, parce que Jean lui disait il ne t'est pas permis de la voir. » Parlant de la femme, de Philippe, bien sûr. Voilà donc la raison de la décapitation de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste rappelle la loi. On aurait tort de croire que Jean-Baptiste y passe parce qu'il fait la morale à Hérode, du style « Il n'est pas bien de prendre la femme de ton frère ». C'est bien plus profond que ça. En disant à Hérode, au verset 4, « Il ne t'est pas permis de la voir », Jean-Baptiste lui rappelle qu'une femme n'est pas un objet à posséder. Une femme n'est pas une marchandise. On le voit dans le texte, Hérode a du pouvoir car il a plein de richesses. Pour Hérode, le pouvoir, c'est avoir. On le voit quand il promet de donner tout ce que la fille d'Hérodia lui demanderait. Par ces objets, Hérode pense combler tout ce que cette jeune fille pourrait demander. Avec Hérodia comme femme objet, Hérode pense combler tous ses besoins à lui. Jean-Baptiste lui signifie que c'est une impasse, qu'avec ses objets, Hérode n'est pas le Tout-Puissant. Il existe un autre monde, celui des sujets, le royaume de Dieu. Et bien sûr, il existe d'autres noms à ce monde-là. Pour Hérode, c'est insupportable, car Jean-Baptiste lui dit qu'il n'est pas le Tout-Puissant avec ses objets. Par sa mort, Jean-Baptiste témoigne que le monde de la relation existe, que le royaume de Dieu existe. Voilà ce que les foules entendent, l'existence du royaume de la relation. Quand Jésus se retire dans un lieu désert, les foules entendent qu'elles peuvent y entrer. Elles peuvent y entrer dans ce royaume de la relation en suivant Jésus, là où il s'est retiré lui-même. Jean-Baptiste témoigne du royaume de Dieu. Jésus fait faire l'expérience de ce royaume, fait faire l'expérience de la relation. Et bien sûr, pour cela, il faut sortir des villes, il faut sortir du monde des objets dont la ville est remplie. On aurait pu croire que dans le monde des sujets ou dans le royaume de Dieu, on ne s'occuperait pas des corps physiques, de la chair. Jésus montre l'inverse à ces foules qui viennent à lui. Il guérit leurs malades. Non seulement il guérit leurs malades, mais il les nourrit aussi avec 5 pains et 2 poissons. Le nourrissement du corps ne se fait pas uniquement dans le monde des objets, comme on le croit trop souvent. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, dit Jésus au diable lors de la tentation au désert, dans ce même évangile. Ce jour-là, dans le monde des sujets, Jésus nourrit une foule entière, et il y a du reste. On a vu, chers frères et sœurs, que Jean-Baptiste et Jésus sont indissociables. Le premier témoigne, le deuxième fait expérimenté grâce au premier qui a témoigné. Le premier est prophète, le second est Seigneur. Jean-Baptiste, par sa mort, a préparé le chemin du Seigneur. Jésus est plus grand que Jean, mais Jean est indispensable à Jésus. Par sa mort et son ascension, Jésus rassemble les deux rôles de prophète et de Seigneur. La mort pour témoigner que le royaume de Dieu existe, son ascension pour nous faire entrer dans ce royaume-là. Seul, vous avez bien entendu, seules les oreilles ont la capacité de nous faire sortir du monde des objets que nous fréquentons tous les jours. Le monde des objets nous asservit en nous faisant croire que ce monde-là nous donne la vie. Laissons-nous guider par nos oreilles. Elles nous mèneront au pied du Christ pour vivre et se rassasier de lui. Amen.